Et j'ai accepté bien volontiers de vous parler de Camus, d'abord parce que c'est un de mes écrivains préférés, non pas le seul, mais disons pour des raisons à la fois professionnelles et plus personnelles, un écrivain sur lequel je me suis penché depuis assez longtemps et sur lequel j'ai écrit de petits ouvrages, dont un sur le dernier ouvrage posthume de Camus, le premier homme, et le dernier qui est une sorte de synthèse sur la vision politique de Camus. Mais si on a beaucoup parlé du fond dans l'œuvre de Camus, il me semble effectivement qu'on a négligé l'aspect linguistique. Camus est la langue française. On s'est attaché surtout aux controverses philosophiques, dont la plus célèbre, évidemment, vous la connaissez, est celle avec Jean-Paul Sartre, mais peut-être a-t-on négligé cet aspect-là. Alors, ça m'intéresse parce que moi-même, je m'étais laissé un peu prendre au piège du fond, tout en appréciant la forme, mais sans l'avoir étudiée peut-être d'une manière un peu plus systématique. Et donc je remercie Yves de m'avoir proposé ce sujet, qui m'a imposé une lecture un peu plus fouillée du texte de Camus. Alors, ma patrie, c'est la langue française. C'est ce qu'écrit Camus, c'est ce qu'il prononce dans son discours de Stockholm lorsqu'il reçoit le prix Nobel. Il n'est pas le seul à prononcer cette parole. Beaucoup d'écrivains ont choisi la langue française comme véhicule de leur pensée et comme véhicule de leur conception esthétique. La langue compatrie. Si je prends en comparaison un écrivain qui ressemble par certains côtés à Camus, c'est le Roumain Émile Cioran, qui écrit « Oui, j'ai une patrie, la langue française ». Il reprend pratiquement textuellement ce que dit Camus. Le Clésio, que nous connaissons, peut-être est-ce parce que né français en terre française, mais ayant beaucoup voyagé de par le monde, écrit lui aussi « La langue française est le seul lieu où j'habite ». Les écrivains francophones, évidemment, qui font souvent le sacrifice de leur langue maternelle au bénéfice de la langue française, peuvent être également cités comme exemple. Si je reprends encore Cioran, il écrit, de manière encore plus péremptoire que les autres, « On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est une langue et ce n'est rien d'autre. » Une telle attitude prend à rebours l'idée communément admise que c'est la patrie qui, en nous accueillant, nous fait le don de la langue. C'est le sermo patrius des anciens latins ou la caractéristique même de l'expression langue maternelle. Mais effectivement, la notion de langue maternelle est assez ambiguë. Est-elle réductible à une ascendance ou à un territoire? Est-ce la langue du pays où l'on est né? Mais alors, en ce qui concerne Camus, l'objection apparaît tout de suite. Le hasard ou la nécessité peuvent nous avoir fait naître sur un territoire qui n'est pas ou qui n'est plus français. C'est évidemment le cas d'Albert Camus. Né en 1913 en Algérie, mais considérée alors, cette Algérie, comme composée de départements français, donc étant juridiquement française. Et la langue considérée comme maternelle peut ne pas être celle qu'on nous a appris la première. Montaigne, dans ses essais, nous dit que c'est le latin que son père lui avait fait entendre avant même qu'il n'apprenne le français. On peut avoir aussi deux langues maternelles. C'est le cas des enfants bilingues ou des écrivains étrangers et qui, sans renier leur langue maternelle, choisissent pour des raisons diverses la langue française pour s'exprimer. Une langue peut ainsi devenir maternelle par choix délibéré. C'est le cas des écrivains francophones dont j'ai parlé, pour diverses raisons. Échapper à soi-même ou à son milieu, se soumettre au code rigide de la grammaire française et à la subtilité de sa syntaxe dans la recherche exigeante d'une exactitude de l'expression la plus proche possible, justement, de la perfection, ou par attirance irraisonnée. C'est le cas de l'écrivain algérien Yasmina Kadra, écrivant en français, qui récemment, une dizaine d'années, dans Le Monde, du 28 octobre 2004, déclarait « Pour moi, la langue française n'est ni un butin de guerre, ni une assimilation. Je l'aime un point, c'est tout. Elle m'a fourni l'essentiel de ce que je possède et m'a enseigné ce que je sais. » Cette position de l'écrivain algérien est très proche de celle d'Albert Camus. La langue française est chez lui la langue maternelle, bien sûr, stricto sensu, mais compte tenu des conditions particulières liées au contexte familial qui fut le sien, elle est aussi une langue d'émancipation personnelle, avant de devenir le matériau de son œuvre d'écrivain. Donc, si vous voulez, j'axerai mon intervention deux directions. Pour Camus, première direction, la langue française est une conquête et non un simple héritage. Deuxième axe, la langue française est le matériau privilégié par Camus pour la connaissance de soi, qui est prioritaire chez lui, et pour l'action sur le monde qui découle de ses options philosophiques, dans la perspective, de l'élaboration d'une œuvre dont il a la préscience assez jeune et dont, dans ses carnets, déjà très jeune, il marque les différentes étapes. Alors, la langue française est donc, pour Camus, une conquête et non un héritage. Je n'insisterai pas sur ce que les biographes ont développé d'abondance et que Camus lui-même développe avec beaucoup d'art dans son dernier ouvrage, Le Premier Homme, sur son enfance pauvre, illuminée évidemment par la clarté méditerranéenne, monde de pauvreté et de lumière, mais monde de pauvreté quand même, et particulièrement de pauvreté culturelle. Et la comparaison du Premier Homme avec les mots de Sartre est particulièrement instructive, car nous avons là une opposition tout à fait intéressante. Les mots, c'est le titre que Sartre donne à son autobiographie, eh bien, c'est le monde des livres, c'est le monde de la parole, c'est le monde d'une certaine culture bourgeoise, disons, qui s'oppose évidemment à la nudité culturelle de l'univers familial de Camus. Sartre écrit joliment « Les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne. La bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir. » Rien de tel, évidemment, chez Camus, orphelin, son père étant mort à la guerre de 1914, sa mère vivant sous la tutelle de la grand-mère, une sorte de maman méditerranéenne, la mère pratiquement muette, un peu par maladie, surtout parce qu'il n'y a rien à dire, et à qui Camus vouera un véritable culte. Un culte fait à la fois d'admiration et de souffrance intérieure. À toi qui ne pourras jamais lire ce livre, c'est la dédicace que Camus prévoyait de mettre au début du premier roman. Albert Camus fait partie du petit nombre d'écrivains issus du peuple. Si l'on entend par ce mot les classes les plus défavorisées, en ce sens, il se situerait dans la lignée d'un Jules Vallès, portant témoignage d'une enfance pauvre, mais sans récrimination, avec ses révoltes, bien sûr, et ses rêves, transfuge de leur classe sociale, projetés par le talent ou les circonstances, dans un monde étranger à leur univers initial, il arrive qu'ils connaissent la notoriété ou, comme Camus même, la gloire littéraire. La langue française est, pour Camus, au départ de sa vie, un maigre viatique, suffisant pour une entrée précoce dans la vie active qui aurait dû être la sienne, sans l'action décisive de son instituteur, M. Germain, à qui il rendra évidemment un hommage appuyé lorsqu'il recevra son prix Nobel de littérature. On peut dire que la langue française a été pour Camus un véritablement soleil, autour duquel ont gravité, à distance respectable, des sortes d'astéroïdes linguistiques, le latin qu'il a appris et dont il avait une connaissance bonne, en revanche, ne connaissait pas le grec, l'espagnol, de par l'origine de sa mère, mais un espagnol abâtardi, évidemment, par la pratique quotidienne des besoins linguistiques minimaux. L'arabe, dont il avait quelques notions, mais sans plus. Et à ce propos, si vous avez peut-être vu le film Le Premier Homme, tiré du roman, on voit un Camus, Jacques Forméry, parlant un arabe pratiquement irréprochable, ce qui évidemment jette une sorte de doute sur l'authenticité du film par rapport au roman. Comme tous les Européens dans l'Algérie de l'époque de Camus, la langue française est celle avec laquelle il se reconnaîtra un lien privilégié et dans laquelle il se reconnaîtra un lien également primordial. Pour les immigrants venus de tout le pourtour méditerranéen, en plus de la nécessité pratique d'un langage commun, le français sera surtout, avant tout, un facteur de cohésion pour une communauté en voie de formation, une autochtonie européenne en face d'une autochtonie arabo-musulmane séculaire, autochtonie européenne, dont Camus luttera pour la survie. L'école est pour Camus, sera pour Camus l'antidote, justement, du foyer familial. Ce qu'il ne trouve pas à la maison, il le trouvera à l'école. Beaucoup d'écrivains ont gardé des souvenirs d'école, un souvenir pénible. Ça a même été, pour certains, une source d'inspiration littéraire. Je prends pour exemple un roman bien oublié, mais qui en son temps a eu beaucoup de succès, c'est La maternelle de Léon Frappier. On se souvient également du Petit Chose d'Alphonse Daudet, et peut-être celui qui a gardé le plus mauvais souvenir de l'école, c'est justement Jules Vallès, dont la trilogie L'enfant, le bachelier, l'insurgé, montre bien justement la progression dans une sorte de détestation de l'école. Une phrase qui résume son attitude: à ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim, je dédie ce livre. L'école a été, pour certains écrivains, source de frustration affective, comme chez Chateaubriand, comme chez Proust même, chez Mauriac. Chez Camus, rien de tel. Bien au contraire, l'école est bien pour Jacques Cormery, du premier homme, qui est le double de Camus, l'antidote du foyer. Seule l'école, écrit Camus, donnait à Jacques et à Pierre, son ami d'enfance, ses joies. Ce qu'ils aimaient en elle si passionnément, c'est ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, où la pauvreté et l'ignorance rendaient la vie plus dure, comme refermée sur elle-même, car la misère est une forteresse sans pont-levis. L'école a été pour Camus le premier pas pour rompre cet encerclement et l'ouvrir au monde. Au dehors, le soleil pouvait bien hurler sur les murs fauves, pendant que la chaleur crépitait dans la salle elle-même, plongée dans l'ombre des stores, à grosses rayures jaunes et blanches. La pluie pouvait tomber, comme elle le fait en Algérie, en cataractes interminables, faisant de la rue un puits sombre et humide. La classe était à peine distraite. Camus a eu la chance de trouver un mentor aux trois stades de son cursus scolaire et universitaire. À l'école, tout d'abord, avec son instituteur, M. Germain. Voici un extrait de la lettre qu'il écrit à son instituteur après l'obtention du prix Nobel de littérature. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Dans l'œuvre de Camus, on retrouve également un beau type de personnage instituteur. C'est dans la nouvelle Lot, où Daru, l'instituteur, enseigne aux petits Algériens le rudiment de la langue française. D'autres instituteurs ont pu mériter la même reconnaissance, mais seul, aux yeux de Camus, M. Germain, pas simplement parce qu'il lui avait appris justement le rudiment de sa langue maternelle, mais parce que il avait pesé de tout son poids d'homme pour accomplir le seul geste paternel, lourd de conséquences assumées, modifier le destin d'un enfant en l'arrachant malgré les réticences de la famille, au monde innocent et chaleureux des pauvres, monde fermé sur lui-même comme une île dans la société, pour le jeter seul dans le monde inconnu, pour l'élever seul, grandir et devenir homme au prix le plus fort. Effectivement, c'est M. Germain qui, ayant remarqué les qualités de Camus, avait insisté au prix de gros efforts auprès de la famille, de la grand-mère en particulier, pour lui faire passer l'examen, le concours des bourses, qui donnait accès à l'époque au grand lycée d'Alger, qui était le lycée Bugeaud. Et au lycée, justement, ce sont les professeurs de lettres qui se sont le plus attiré sa sympathie. Pour la simple raison que ce sont les professeurs de lettres qui sont le plus souvent en présence des élèves, surtout si, en plus, ils enseignent le latin. Dans une annexe des carnets de Camus, on note, Camus note, à propos de ses professeurs, dire lesquels est développé. Nul doute qu'il aurait mis au-dessus du lot son professeur de français en classe préparatoire. Ce professeur de français s'appelait Paul Mathieu, que j'ai eu le privilège, lorsque j'étais jeune étudiant à Alger, lui vieux professeur, d'avoir comme professeur en propédeutique et en littérature. Quelques mois avant son accident, il lui redisait, Camus, à Paul Mathieu, la longue affection qui les unissait. Il fut pour Camus à la fois une sorte de directeur spirituel et même parfois, lui faisant des reproches quand il le rencontrait à Alger, sur la vie amoureuse de Camus, qui faisait souffrir évidemment son épouse. Et Paul Mathieu, qui était un professeur à l'ancienne, ne manquait pas de lui faire amicalement ce reproche. Au moment de la peste, il avait écrit à Paul Mathieu qu'en matière artistique, c'est important, il lui devait les deux ou trois références sur lesquelles il s'appuyait sans cesse. À l'université, troisième étage de la fusée, le talent est une alchimie, bien sûr, que n'explique pas toujours la réussite scolaire ou universitaire. Baudelaire a brillé en thème grec, et cela n'explique pas le charme particulier des fleurs du bal. Malraux, cancre encyclopédique, selon l'oxymore plaisant de Jean-Marie Rouard, ne laissait pas présager l'éclosion des chefs-d'œuvre que sont la condition humaine et les antimémoires. Si certains se targuent d'être à Bac plus 15-16, Malraux était à Bac moins 3 ou 4. Il a été jusqu'en seconde. Donc, ce n'est pas la réussite scolaire qui nécessairement laisse présager la réussite littéraire. Mais cependant, bien que rare, des idylles intellectuelles entre futurs écrivains et professeurs exceptionnels ont existé. On peut citer comme exemple Rimbaud et son professeur Isambard. Et ça a été le cas, évidemment, de Camus et de Jean Grenier, dont l'écrivain a reconnu et proclamé l'influence non seulement sur sa vision du monde, mais sur le style même de ses livres. Il a préfacé, Camus, un ouvrage de Jean Grenier intitulé « Les îles ». Et dans cette préface, il montre de manière très nette et très claire ce que, selon lui, doivent ou devraient être les relations entre maître et disciple. Parmi les demi-vérités, écrit Camus, dont s'enchante notre société intellectuelle, figure celle-ci, excitante, que chaque conscience veut la mort de l'autre. Aussitôt, nous voici tous maîtres et esclaves, voués à nous entretuer. Mais le mot maître a un autre sens, qu'il oppose non seulement aux disciples dans une relation de respect et de gratitude. Cette longue confrontation n'entraîne ni servitude ni obéissance, mais seulement imitation au sens spirituel du terme. L'esprit engendre l'esprit et l'histoire des hommes, heureusement, se bâtit autant sur l'admiration que sur la haine. En conclusion de cette première partie, on peut dire que la langue française est bien la langue maternelle de Camus. Cela semble une évidence. Mais, au sens très fort, elle le situe dans une lignée, lui donne accès à une mémoire collective que sa famille ne peut pas lui donner. Il décide de l'habiter, cette langue, autant qu'il accepte d'être habité par elle. Il est né dans cette langue, bien sûr, mais il fait le choix de renaître en elle. Il renverse, en quelque sorte, le déterminisme. Il fait à sa langue le cadeau d'une patrie, substituant au nationalisme de la langue le patriotisme du langage, dans lequel viennent se fondre et s'harmoniser d'autres patries de Camus. Quelles sont ces autres patries? L'Algérie de sa naissance, l'Espagne des origines maternelles, la France enfin, pour qui est mort son père, pour qui il a combattu, lui, Camus, pendant la Résistance, et qui le fit souffrir quand il comprit qu'elle ne voulait plus de sa terre natale. Il faut ajouter la patrie mythique, qui est pour Camus la Grèce antique. Il écrit justement à ce propos « Je me sens le cœur grec ». À propos d'Algérie, il écrivait dans l'été « En ce qui concerne l'Algérie, j'ai toujours peur d'appuyer sur cette corde intérieure qui lui correspond et dont je sais le chant aveugle et grave. Mais je puis bien dire qu'elle est ma vraie patrie, elle aussi. » René Char, qui est acquis qu'une forte amitié liée à Camus, ne disait-il pas que si la patrie nous est donnée, nous donne une langue en héritage, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. La langue française est pour Camus, une fois qu'il aura acquis l'essentiel, le matériau privilégié pour la connaissance de soi et pour l'action sur le monde. Au départ, cependant, elle est envisagée comme la base de son métier d'enseignant, qui est sa vocation première. Il a fait effectivement des études secondaires au lycée Bugeaud. Il est passé en Cagne. Alors, au lycée Bugeaud d'Alger, il y avait une classe préparatoire normale supérieure, mais il faut Cagne, simplement. La Cagne, il fallait aller ensuite dans l'université, dans les lycées de la métropole. Donc, Camus, de par son impécuniosité, est allé à la fac, au lieu d'aller ensuite, comme beaucoup d'autres, faire Cagne à Paris. Il obtient une licence de philosophie et un diplôme d'études supérieures qui était une sorte de petite thèse préparatoire à l'agrégation. Et le sujet de cette thèse est intéressant. Métaphysique chrétienne et néoplatonisme chez Plotin et Saint-Augustin. Cela suppose chez Camus une appétence à la culture, à la lecture en particulier. Pas de bibliothèque chez lui. En revanche, quand il est étudiant, il bénéficie à la fois de l'aide financière de son oncle, Acco, qui était une sorte de voltairien, qui tenait une rue Michelet à Alger, une boucherie, où il vendait la langue de la viande française, évidemment, et il se voulait un bel esprit, ces voltairiens, et il disposait d'une assez vaste bibliothèque. Et Camus a puisé sans modération dans cette bibliothèque. Puis il y a eu la bibliothèque de la faculté d'Alger, et au dire de certains amis, il était le premier à y entrer et le dernier à en sortir. Une sorte de fringale de lecture et de fringale de culture. Donc, ce travail universitaire, à la base, qui obéit à des lois, à des règles d'écriture que l'on peut qualifier d'académiques, si l'on veut, et le socle sera le socle des écrits de Camus, ces écrits à connotation philosophique, que sont par exemple le mythe de Sisyphe ou, un peu plus tard, l'homme révolté. C'est l'impossibilité d'une carrière universitaire, il ne peut pas présenter l'agrégation à cause de l'atteinte de la tuberculose, or à l'époque c'est très strict, si l'examen médical n'était pas bon, vous ne pouviez pas passer les concours universitaire. Le pousse vers le journalisme, qui lui permettra de parfaire sa maîtrise de la langue française dans le sens de la clarté et de la concision. Donc c'est un peu aussi par nécessité qu'il devient journaliste, d'abord à Alger Républicain, fondé par Pascal Pia, ami de Malraux, qui était venu à Alger pour créer un journal dans l'esprit du Front Populaire. Et à Soir Républicain, qui était une sorte d'annexe d'Alger Républicain, où Camus faisait tout, à la fois rédacteur en chef, auteur d'articles, et dont la marque, en quelque sorte, de Camus était telle que les autorités locales s'en sont alarmées et que le journal a été supprimé. Camus a toujours considéré son métier de journaliste comme aussi noble que celui de romancier ou de dramaturge. Et justement, cet amour du théâtre, qui est une autre caractéristique de Camus, va accentuer en lui cette nécessité d'une contrainte extérieure. Car l'art, le théâtre, est l'art de la contrainte par excellence, ou du moins était à l'époque l'art de la contrainte par excellence. Des contraintes qui sont non seulement acceptées par Camus dans l'acte d'écrire, mais aussi revendiquées. Pour Camus, comme pour André Gide, l'acte d'écrire ne signifie pas seulement communiquer à autrui ce que l'on pense, et ce que l'on pense est pour soi une vérité, mais aussi et surtout donner à cette vérité la forme la plus satisfaisante, la plus exacte, la plus proche de la perfection. Bref, faire avec des mots, œuvre artistique. Il revendique lui-même le parrainage de Gide dans le domaine de l'écriture. Si dans le domaine de la pensée gidienne, il est plus réservé, et si son tempérament de méditerranéen trouve un peu trop subtil la pensée hédoniste de Gide, en matière d'écriture, il en fait en quelque sorte un maître. La meilleure preuve, c'est justement en 1957, dans son discours de Suède, voici ce qu'il écrit, 1957, c'est donc 3 ans avant sa mort, donc c'est déjà le bilan pratiquement d'une vie et d'une œuvre. « Non, écrit-il, l'artiste libre, pas plus que l'homme libre, n'est l'homme du confort. L'artiste libre est celui qui, à grand-peine, crée son ordre lui-même. Plus est déchaîné ce qu'il doit ordonner, plus sa règle sera stricte et plus il aura affirmé sa liberté. » Il y a un mot de Gide que j'ai toujours approuvé, bien qu'il puisse prêter à malentendu. Ce mot, c'est « l'art vit de contraintes et meurt de liberté ». La citation exacte, c'est « l'art né de contraintes vit de sacrifice et meurt de liberté ». L'art, pour reprendre Camus, ne vit que des contraintes qu'il s'impose à lui-même. Il meurt des autres. En revanche, s'il ne se contraint pas lui-même, le voilà qui délire et s'asservit à des ombres. L'art, le plus libre et le plus révolté, sera aussi le plus classique. Voilà le gros mot lâché. L'art, le plus révolté, sera aussi le plus classique. Il couronnera le plus grand effort. Ces contraintes ne sont pas seulement, chez Camus, des choix esthétiques. Elles correspondent à un besoin impérieux de contenir des forces intérieures volontiers anarchiques et qui menacent la cohésion de sa personnalité. Il le dit avec clarté et sans ambiguïté lui-même dans ses carnets, « Il y a en moi des résistances artistiques comme il y a chez d'autres des résistances morales ou religieuses. » L'interdit, l'idée que cela ne se fait pas, qu'il est étrangère en tant qu'enfant d'une libre nature, mais présente en tant qu'esclave et esclave admiratif d'une tradition artistique sévère. Il ajoute, je n'ai vaincu cet à-bout que dans l'état de siège, qui est une sorte d'adaptation de son roman La pièce au théâtre, et qui explique la tendresse que je voue à cette œuvre, généralement dédaignée. Peut-être aussi cette méfiance vise mon anarchie profonde, écrit-il, et par là reste utile. Je connais mon désordre, la violence de certains instincts, l'abandon sans grâce où je peux me jeter. L'œuvre d'art, pour être édifiée, je parle du futur, dit-il, doit se servir de ces forces incalculables de l'homme, mais non sans les entourer de barrières. N'est-ce pas là la caractéristique même de l'art classique qui, dit-on, est un romantisme dompté et non un pur académisme. L'usage de la langue française peut devenir, chez Camus, une véritable assaise. S'il est un écrivain d'expression française qui a poussé, justement, cette conception de la langue jusqu'à ses limites extrêmes, c'est Cioran, que j'ai déjà cité. Et pour Camus, il a connu cette tentation de la langue comme assaise, tout en sachant que, pour lui, ces barrières qu'il s'impose sont trop fortes, parce qu'elles ont à contenir quelque chose qui est encore trop fort. Mais, écrit-il, le jour où l'équilibre s'établira, ce jour-là, j'essaierai d'écrire ce dont je rêve. Elle ressemblera à l'envers et l'endroit, une œuvre de jeunesse qu'il avait laissée sous le boisseau, mais que sur la fin de sa vie, il republie avec une admirable préface, dans laquelle il dit « Si je n'arrive pas à retrouver avec l'art qui est le mien maintenant, le contenu émotionnel de l'envers et l'endroit, je n'aurais pas réussi à écrire mon œuvre. Pour l'heure, l'écriture est érigée chez lui en principe autonome. La recherche de la perfection est pour Camus comme pour Cioran l'espace de la transparence absolue, de la clarté et de la pureté sans équivoque. Le lieu de la vérité, d'où le mensonge et la tromperie sont exclus. Langue et grammaire, langue de grammairien plutôt, de juriste, où les fautes et les barbarismes sont bannis, la langue française est pour Camus comme pour Cioran le lieu de la vérité, où le mensonge n'a pas sa place. On voit tout de suite la conséquence morale d'une telle exigence esthétique. Dans son acte d'engagement politique, une telle conception ne peut aller qu'à l'encontre d'un monde où le mensonge, malheureusement, est souvent érigé en vertu cardinale. S'il y a correspondance entre le fond et la forme, il y aura, selon Camus, transparence entre l'auteur et le lecteur, car une langue claire, à ses yeux, ne cache rien. Je reprends encore Cioran, mais on peut l'appliquer textuellement à Camus. La clarté provocante, parfois inhumaine, refus de l'indéterminé, de l'obscurité essentielle, torturante, en font un moyen d'expression qui peut s'évertuer au mystère, mais qui n'y accède pas vraiment. À pensée claire, discours clair, et par conséquent, à discours clair, pensée honnête. La langue de Camus s'articule sur un discours classique, à la façon de l'art poétique de Boileau, qui repose, vous le savez, sur la célèbre formule que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. La langue devient le fondement d'une dialectique, mais aussi d'une éthique, qui est celle de la lucidité. Si le français est une langue précise et claire, c'est aussi une langue qui ne permet pas la tromperie intellectuelle. Quelqu'un a dit du français que c'est une langue honnête, pas moyen de tricher en français. L'escroquerie intellectuelle est quasi impraticable. C'est ce que pensait Cioran, c'est ce que aurait pensé certainement Camus. Alors il est assez plaisant d'entendre citer à tout propos, parfois hors de propos, par nos hommes politiques, d'entendre citer Camus, par des hommes politiques dont la sincérité ne semble pas, a priori, au moins chez certains d'entre eux, une vertu cardinale. D'où le malentendu, terme camusien par excellence, puisqu'il est le titre de ses pièces, sur la profondeur de la réflexion philosophique de Camus. Car on part du principe, généralement admis, que ce qui est confus est nécessairement profond. Et cette clarté camusienne a été vertement reprochée, en particulier par Jean-Jacques Brochier dans un ouvrage intitulé « Camus, philosophe pour classe terminale », ou alors, un peu plus tôt, par Jean Co. Jean Co a eu cette particularité d'avoir été secrétaire de Sartre. Et à ce titre-là, il assurait la liaison de Sartre avec le monde intellectuel extérieur, car Sartre sortait peu et était surtout absorbé dans sa philosophie. Il écrit, Jean-Paul, dans Croquis de mémoire, « Reste que je n'étais pas camusien et mettez l'auteur du mythe de Sisyphe, du haut de ma secrète impertinence, au niveau d'un bachelier de philo, fut édité par chance la MRF. Camus disait en plaisantant que ceux qui écrivent de manière obscure avaient beaucoup de chance. Ils avaient des commentateurs. Lui n'avait que des lecteurs. Il disait cela avant qu'il ait atteint une certaine notoriété. Maintenant, il a peut-être trop de commentateurs. Plusieurs décennies après sa disparition, il a toujours beaucoup de lecteurs et de plus en plus de commentateurs. Camus se veut un artiste du langage et il récuse l'étiquette de philosophe au sens sartrien du terme. Pourquoi, dit-il, suis-je un artiste et non un philosophe? C'est parce que je pense selon les mots et non selon les idées. Et il ajoute, pour illustrer ce que je viens de dire, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Camus est un écrivain sélectif. Par son tempérament, il appartient à une lignée plutôt qu'à une époque. Il n'est pas de ceux qui s'inscrivent dans une tradition littéraire et prennent le ton des littérateurs à la mode. On peut même dire qu'il n'est pas un lettré au sens profond du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a des connaissances variées et généralement assez approfondies. Il ne tenait pas même, ça va vous surprendre, à paraître cultivé. Entre deux extrêmes, il ne tombe jamais dans le moyen terme. Homme de lettres, il ne connaît pas très bien la littérature. Il a fait des études de philosophie, il a des connaissances évidemment normales en littérature. Il choisit des écrivains qui l'intéressent avant tout. Il semble ignorer le reste et même ignorer la vie littéraire. Voilà pourquoi, dans l'époque moderne, celle qui remet en question le destin de l'homme dans le cosmos et dans le contexte humain, il n'est lié qu'au précurseur d'une part et à l'ultime crise de conscience d'autre part, ce qui explique que parmi les contemporains, Malraux ait eu très tôt chez lui une importance très grande. Les gens de ma génération, écrit-il, avaient été nourris de grandes illusions, mais sur mes 20 ans, s'était abattue comme un couvercle la révolution hitlérienne et la guerre d'Espagne. Proust, Valéry et Claudel avaient perdu pour moi leur enchantement. Seul Malraux parlait à ceux de mon âge une langue intelligible. Faut-il, dans ce cas, placer Camus dans la lignée des moralistes français, à la tradition, si vous voulez, de l'honnête homme du XVIIe siècle? Oui, si on considère cet honnête homme, non pas comme l'homme du juste milieu, mais comme un homme fier et digne, ayant du bon sens, bien sûr, et de la sociabilité, doté du sens de la mesure, sans être un homme du juste milieu. Et à condition de l'insérer aussi dans la lignée de Pascal, à cause de ses tourments existentiels, du Vigny des destinées pour son agnosticisme éloigné de l'athéisme sartrien, des libertaires de type proudhonien pour les préoccupations sociales qui furent les siennes. J'ai un si fort désir, écrit-il, de voir diminuer la somme de malheur et d'amertume qui empoisonne les hommes. Faut-il alors inscrire Camus dans la lignée des écrivains humanistes? Lui-même, il s'est méfié de cette notion d'humanisme, car il refusait, tout en approuvant le souci de l'humanisme, de se préoccuper essentiellement de l'homme, de se voir enfermé dans la prison de trop courtes certitudes. Un lu trop superficiellement, Camus donne en effet prise à une sorte de conformisme moralisateur qui est la plaie de notre temps, à une débauche de bons sentiments à vocation inquisitoriale. C'est l'inquisition des bons sentiments qui caractérise notre époque et la confirme dans ses préjugés et son arrogance de supériorité morale. Ce n'est pas moi qui prononce ces paroles, c'est un philosophe toulousain qui s'appelle Robert Redeker, parlant de Camus. Maintenant que se sont effondrés les totalitarismes, que le communisme a disparu et le messianisme et le marxisme s'est flétri, les héritiers de ceux qui traitaient volontiers Camus de réactionnaire, des intellectuels de son temps qui vibraient, écrit Redeker, d'un désir de servitude volontaire, font de Camus maintenant le porte-drapeau d'une génération morale, une morale qui mène à l'abstraction et à l'injustice, mère de fanatisme et d'aveuglement. Et Redeker en sait quelque chose, lui qui vit actuellement dans la clandestinité, objet de ce qu'on appelle une fatwa. Le sens de l'humain, grâce auquel avait pu résister Camus à l'histoire et à l'état totalitaire, à l'asservissement de l'intelligence, se mue sous nos yeux en un humanitarisme, confusion entre morale et politique, que l'auteur de La Peste dénonçait déjà en son temps. Car Camus déjà avait pressenti ce que cette position excessive de pureté, de désir de pureté, avait de funeste. « J'ai abandonné, écrit-il, le point de vue moral. La morale mène à l'abstraction et à l'injustice. Elle est mère de fanatisme et d'aveuglement. Mais que dire de celui qui professe la morale sans pouvoir vivre à sa hauteur? Les têtes tombent, il légifère. » Le monde, la morale, se voit reprocher par Camus les méfaits que Camus attribuait jusque-là aux idéologies politiques. La morale fanatise, comme la politique, dans l'homme révolté. Elle peut, elle laisse faire de son zélateur un meurtrier par idée. D'où la crainte de Camus de se voir figé dans l'attitude du moralisateur donneur de leçons, tel que, malheureusement, on le représente trop souvent. Redeker poursuit. Tant qu'on ne lit pas Camus de trop près, Brochier a raison. Il existe bien un Camus grand courant, qui n'est pas seulement une illusion de lecteur pressé. Ce que Camus a écrit donne effectivement prise à un conformisme moralisateur qui s'est abattu sur notre temps, l'empêchant de respirer. Le politiquement correct peut trouver dans Camus racine et justification. C'est le malentendu dont je parlais, c'est qu'on fait de Camus ce qu'il n'est pas. On peut légitimement s'inquiéter donc de cet affadissement de la pensée camusienne. Il est à craindre, en effet, que nombre de lecteurs, se référant à deux ou trois ouvrages qui ont assuré la notoriété de Camus, L'étranger et la peste, n'en viennent à donner raison à ceux qui ne voient dans ces récits des personnages symboliques ou rédits dans le rôle de porte-parole chargés d'exprimer une philosophie simplette, mélange de dolorisme et de bons sentiments. Il y a grand risque à le voir statufié en homme du juste milieu, modéré au sens péjoratif du terme, une sorte de saint laïc, en quelque sorte, référence obligée, dominant le paysage socialement et politiquement correct d'aujourd'hui. Il ne manque plus sa larme, Alain Gérard Slama, pour le rendre à jamais insupportable, que de faire du romancier de l'étranger un précurseur de Marguerite Duras dans l'art de commuer en métaphysique nos émois neuro-végétatifs. La vraie personnalité de Camus, elle est ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur cet aspect qui semble partagé malheureusement par un grand nombre de lecteurs. La vraie personnalité de Camus est ailleurs. C'est une violence intérieure due à un tempérament, à une révolte instinctive, violence tempérée par l'intelligence. Il en résulte logiquement une ambiguïté dans la pratique de la langue française, une ambiguïté de style, qui, naturellement souple et lyrique, peut devenir sec et dépouillé pour évoquer, par exemple, l'absurdité du monde dans l'étranger. Rappelez-vous les premières pages de l'étranger, aujourd'hui maman est morte, etc. Ou souple et fluide pour traduire les états d'âme complexes du Clamence de la chute. Sa philosophie étant celle d'un artiste, elle tend nécessairement à l'expression métaphorique, symbolique, mythique. Cette volonté de pérenniser une pensée dans des mythes, Vigny déjà l'avait manifesté quand il affirmait que les grandes pensées ne pouvaient survivre que dans la perfection formelle. Et pour Camus, une tension constante qui ne pouvait avoir pour effet que de sacrifier la part la plus originale et la plus authentique de sa personnalité. D'où le soulagement de l'écrivain quand, en 1951, il confie à ses amis « Terminé la rédaction de l'homme révolté ». Avec ce livre s'achèvent les deux premiers cycles, l'absurde, la révolte, 37 ans, et maintenant la création peut être libre. Ce corset qui s'était imposé est devenu une sorte de tunique de Nessus qui le dévorait, d'autant plus qu'avec l'obtention du prix Nobel de littérature, il est devenu une sorte de personnage officiel dans lequel, évidemment, il se trouvait très mal à l'aise. Dans ses carnets, il notait qu'à force de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire, on perd nécessairement en vérité et en sincérité. Il était temps pour lui d'en finir avec tout le reste et de dire ce que, dit-il, j'ai de plus profond. Et ce qu'il a de plus profond, il va l'exprimer, et sans pouvoir l'amener à bonne fin, dans le roman posthume et inachevé du premier homme, qui constitue le premier élément. On y retrouve en germe les thèmes de son inspiration, point d'ancrage d'une pensée et d'un art qui, au milieu des tribulations de son temps, se sont voulus dans l'esprit de la Grèce antique. Point d'ancrage que Camus lui-même désigne par 10 mots qu'il préfère, les 10 mots qu'il préfère, à savoir le monde, la douleur, la terre, la mer, avec un E à la fin, les hommes, le désert, l'honneur, l'idée, la mer, M-E-R. Pour terminer, je dirais que la langue française n'est pas pour Camus un beau jouet que l'on trouve dans son berceau et dont on se sert pour une satisfaction esthétique, solitaire ou un jeu verbal, à la manière d'un Mallarmé, ni une idole à laquelle on voue un culte quasi religieux, c'est le saint langage de Valéry, elle est le moyen artistique pour lui de tenter, sinon de résoudre, du moins de rendre moins opaque, d'où cette obsession de la clarté classique.